טוב, ערב טוב. Merci à Madame Toati pour l'accueil pendant toutes ces années. Et que Azad Hashem, ça lui porte une bonne santé. Hier soir, nous avons fêté la Mimouna. La Mimouna. L'ouverture de la mer Rouge a eu lieu le 7e jour de Pessah. Donc Motsae, 7e jour de Pessah, c'est la Mimouna. Donc hier, étant donné qu'on a lu ce qui se passe le 7e jour de Pessah, Motsae Shabbat, c'était la Mimouna. Donc en réalité, il faut savoir être souple et savoir jongler avec ce que nous lisons pour l'adapter à notre vie. Et donc si Shvi'i Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, c'est justement le récit de l'ouverture de la mer, c'est-à-dire qu'hier, le Shabbat qu'on vient de passer, le Shalach, c'était l'ouverture de la mer, comme si nous étions le 7e jour de Pessah. Et donc, par conséquent, le lendemain, donc aujourd'hui, toute la journée d'aujourd'hui, c'était la Mimouna. Donc hier soir, nous avons fêté la Mimouna. Parce que personne ne pense à ça. Ça veut dire qu'il faut savoir, en réalité, juxtaposer les éléments de nos lectures pour prouver que notre lecture ne reste pas un prétexte, ou un texte, mais une vie, réellement une vie, et vivre les choses au moment où elles se passent. Dans la paracha d'aujourd'hui, donc de la semaine dernière et le Shabbat, le Shalach, nous sommes en train de relater la sortie d'Égypte de facto et l'ouverture de la mer. C'est-à-dire que nous sortons d'Égypte, nous traversons cette fameuse mer qui s'appelle Yam Souf, et je voudrais savoir avec vous, Ezrat Hashem, que veut dire cette traversée? Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner? Comment est-ce que je peux de cette traversée rendre quelque chose pour ma vie? Alors j'ai appelé ce cours Nistar Vegalouy, face cachée et face dévoilée. A Torah medaberet bitfanim. La Torah parle en code. Hayam. Lorsque la Torah parle de Yam, donc d'océan, de mer, Hushem Hatsofen Shel Alma de Itkasia, c'est un nom de code. Le nom de code de quoi? D'un monde caché. On appelle Alma de Itkasia. Alma, vous entendez Olam, c'est de l'araméen. Itkasia Kasui, Mechusse. Donc le monde caché. Donc un monde existant, mais recouvert, à tel point que ceux qui ne savent pas pénétrer restent au niveau de l'enveloppe. Et Yabasha, Shem HaTzofen, c'est le nom de code de Alma de Itgalia, le monde dévoilé. Donc, voici les deux grands sujets de notre paracha. Ces deux grands sujets qui, pour laisser en fait quelque chose de palpable dans ce monde, de compréhensible pour l'homme, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte de retirer le monde caché de certains degrés pour que le monde dévoilé se voit un peu. Tout ce que je viens de vous dire, c'est dans la paracha de Bereshit. Akadosh Baruch Hu demande aux eaux de se retirer. Ikavu amaim asher mitachat la shamaim el makom echad veterae hayabasha. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu demande aux eaux, reculez un petit peu, rassemblez-vous, pour qu'on puisse voir un petit peu de terre. Autrement dit, laissez un petit peu une possibilité à l'homme qui lui marche sur la terre d'avoir une certaine approche des données divines. Car si tout est rempli d'eau, comme c'est au départ de la création, rien n'est touchable. Rien n'est compréhensible. Moralité, les eaux doivent se retirer pour laisser apparaître le sec. Yabasha vient du mot yavesh. Donc quand l'homme marche sur un élément sec, bien il a moins de perturbations, moins de turbulences, moins de mouvements. Il a l'impression d'être dans quelque chose de cohérent, de statique, de solide, comme la terre ferme. Alors que marcher sur l'eau, c'est pas évident. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de l'ordre de ce jeu entre l'élément liquide et le solide.
Okay.
Alors, on va voir un petit peu comment ces deux éléments apparaissent dans la paracha. Donc, il faut savoir donc que l'élément qui est le monde caché, pourquoi j'appelle ça le monde caché ? Ben, tout simplement parce que quand tu regardes la mer, tu ne vois rien. Tu as l'impression de voir une surface plane et tout le monde, toute la vie qui vit à l'intérieur de cet océan est invisible à l'œil. Pour arriver à comprendre ce qui se passe dans l'océan, il faut pénétrer, il faut rentrer, il faut approfondir. Donc, en réalité, tous les éléments vivants dans l'eau sont cachés. Donc l'eau s'appelle le monde caché, le monde qui cache. Et donc les êtres vivants qui se trouvent dans l'eau, eux vivent cachés de l'œil du spectateur. Moralité, quand vous voulez avoir quelque chose qui est caché de l'œil du spectateur, il faut rentrer dans l'eau. Et les sages nous disent, il n'y a pas de bénédiction si ce n'est que dans une chose qui est cachée de l'œil. Pour ne pas avoir ce qu'on appelle le mauvais œil. Moralité, les poissons qui vivent dans l'eau, c'est le symbole contre le mauvais œil, parce qu'on ne les voit pas. C'est-à-dire, ils vivent, ils sont en réalité la prospérité, l'abondance, mais d'une manière discrète, cachée de l'œil extérieur. De plus, ils ont toujours un œil ouvert. Pourquoi ? Parce qu'ils ressemblent étrangement, puisqu'ils sont dans un monde tellement caché, à l'Éternel. Car l'Éternel ne ferme jamais l'œil. Hine, loyanum, veloishan, shomer Israël. Donc si vous regardez un poisson dans l'eau, en réalité, il a toujours les yeux ouverts, car il est très proche, au niveau de ce qu'il représente, des valeurs cachées. Alors que si tu regardes les animaux qui sont sur terre, ou les êtres qui sont sur terre, bien tout est dévoilé. Et donc, ce n'est pas caché de l'œil. Mais il y a un problème. C'est que tu peux arriver à une conclusion que ce que tu vois est vrai. Alors que l'eau ne te permet pas d'arriver à cette fausse conclusion. Tu sais très bien que ce que tu vois n'est pas la vérité parce qu'il y a quelque chose de très profond. Mais quand tu regardes quelque chose sur la terre ferme, tu as l'impression que ce que tu vois, c'est ce qui est. Il n'y a rien de plus. On va voir dans le texte. Hayetsurim achaim bayam atufim mai. Tous les êtres qui vivent dans l'eau sont entourés, sont enveloppés d'eau. Einam gluim la'ain amitbonen mibachut. Donc elles ne sont pas, okay, toutes ces créatures visibles au spectateur, à celui qui essaye de voir quelque chose. Velachen hem shmurim me'ain raha. Et donc c'est pour ça qu'elles sont, ces créatures-là, préservées d'un mauvais œil. Qu'est-ce que c'est un mauvais œil? Qu'est-ce que c'est Ayin Hara? Tout simplement une mauvaise vision des choses, c'est tout. C'est pas « je te jette l'œil », ça c'est des bêtises ça, ça veut rien dire tout ça. Un mauvais œil, c'est quelqu'un qui ne voit pas la vie avec le bon œil, c'est-à-dire qu'à chaque fois il voit le négatif de chaque événement. C'est ça Ayin Hara. Il ne voit pas le positif, il n'est pas capable. Il est toujours dans une conclusion négative de ce qu'il est en train de voir. Donc il voit toujours le verre à moitié vide. C'est ça le Ayin Hara. Donc Zohar Siba, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle Okay? La chimouche be symbole hadag neged ain hara. C'est-à-dire que le poisson, c'est l'animal qui symbolise le changement de vision des choses. C'est-à-dire, essaie de voir les choses avec un autre œil. Pas avec celui qui te donne des conclusions hâtives. Tu arrives à des conclusions qui ne sont pas réelles parce que tu n'as pas approfondi le sujet que tu es en train d'étudier ou la vision que tu es en train de voir. On t'a placé quelque chose devant toi et tu arrives à des conclusions qui sont néfastes peut-être. Zot ve'ot, de plus, she'ene ha'dagim, kuchotamit, c'est-à-dire que les yeux des poissons, donc comme j'ai dit tout à l'heure, sont toujours ouverts. Qu'est-ce que c'est avoir un œil ouvert sur? C'est-à-dire toujours dans une tension de lien que le poisson ou que l'être ressemblant au poisson ne veut pas perdre. C'est-à-dire il est toujours en haleine. Il est toujours dans une tension de lien avec une peur de perdre ce lien. Donc il se dit, si je ferme l'œil un seul instant, je risque de perdre la véritable image. Akadosh Baruch Hu, qui lui voit une image complète et globale de l'univers, ne peut pas fermer les yeux. Donc Akadosh Baruch Hu ne ferme pas l'œil. Il ne peut pas sombrer dans un monde qui lui montre en réalité des changements, parce qu'en réalité les changements ne sont pas réels. Et donc, Ineloyanu velo ishan, ishan c'est pas seulement dormir, mais shinui. C'est-à-dire chez lui, il n'y a pas de changement. Car dans la vérité absolue, il n'y a qu'une évolution d'une chose, mais ce n'est pas un changement. Quand une chose change, mais qu'elle change, ça veut dire que tu étais faible et manquant un instant avant. Chaque cadeau de voir qu'il n'y a pas de manque, donc il n'y a pas de sommeil, donc il n'y a pas de fermeture d'œil. Zot veo, donc chez Néa Dagim, Pkucho, Tamid, Remez le Yotam Udaim le Makor Hayutam. Donc les poissons et tous les êtres qui vivent dans l'eau sont dans une conscience permanente de leur vécu, de leur essence et d'être du fait d'être enveloppé par cet élément liquide qui en réalité met korchayutam l'essentiel de leur vie et la source de leur vie. Alors tu ne peux pas te perdre dans l'eau. Dans l'eau tu as toujours conscience parce que ce contact avec l'eau te permet à chaque instant de te rappeler que tu vis de cet élément qui t'entoure. Donc tu es tout le temps enveloppé de quelque chose, donc ton monde n'est pas l'essentiel, tu sais qu'il y a un monde infini autour de toi. Ce que tu n'arrives pas à ressentir dans l'air environnant lorsque tu es en dehors de l'eau. On devrait ressentir cela. C'est-à-dire que l'air qui nous entoure, on devrait savoir qu'en réalité on reçoit des énergies de tout cet élément. Mais comme par hasard, quand tu es hors de l'eau, tu as l'impression que toi, tu es une existence à part entière. Tu n'as besoin de personne. C'est-à-dire qu'à la limite, dans l'élément liquide, il n'y a pas d'égoïsme, alors que dans l'élément solide, dans la yabasha, tu peux devenir yavesh, tu sèches, parce que justement, tu es déconnecté des éléments qui sont autour de toi, tu as l'impression que toi-même tu es un monde à part entière et tu as besoin de personne. Donc, remez le yotam udaim le mekor chayutam ve la yecholet shelahem leodot al kach. En plus de ça, il y a un remerciement constant, permanent, c'est-à-dire une prise de conscience. C'est pas que les poissons disent merci à chaque instant, mais le fait même de ne pas vouloir perdre ce degré-là, c'est comme dire merci. C'est-à-dire à chaque instant je suis dans une prise de conscience, sans perdre un seul instant, sans fermer l'œil, parce que je ne veux pas perdre ce lien de savoir que je vis d'un élément qui me fait vivre. Maintenant, il est facile de comprendre un tout petit peu plus pourquoi quand je veux me relier à des éléments divins, je rentre au mikvé. C'est-à-dire que je dois changer de position. Si je reste sur la terre ferme, je ne peux pas réellement atteindre les éléments qui se trouvent dans l'eau. Pour arriver à toucher chez ces éléments et à ressentir ce que ressentent les éléments qui sont dans l'eau, je dois moi-même rentrer dans l'eau. D'où l'importance qu'a donné la chassidoute au mikvé. Le mikvé, que fait-il? Eh bien, il me rassemble, il me fait voir un ensemble et non pas des particules.
Donc l'eau est l'élément naturel et la terre en est la conséquence.
C'est un retrait de l'eau. Un simsum de l'eau. Ça veut dire qu'en réalité, l'élément véritable de notre vie, c'est l'eau. Donc, en maim est la Torah. La Torah, c'est l'eau. La Torah n'est pas comparée à la terre. Elle est comparée à l'eau. Pourquoi? Parce que dans l'eau, il y a ce qu'on appelle ce mikvé. D'ailleurs, la première fois où les eaux se reculent, il y a marqué ikavu. Ikavu veut dire se rassembler. Ikavu amaim, ikavu. Donc le mot mikvé, qui est racine du mot kav, c'est-à-dire le seul élément droit dont on a déjà étudié, et qui donne la tikva, c'est-à-dire l'espoir. Donc ani mekave, j'espère. C'est la même chose que mikvé. Moralité, si tu es dans un élément liquide dans ta vie, si tu arrives à vivre dans cet élément liquide dans ta vie, tout en restant sur terre, tu as gagné, puisque tu es dans le double degré. On ne t'a pas dit de quitter la terre, et on ne t'a pas dit de rester dans l'eau. Il faut que tu trouves une combine pour être dans l'eau, sur la terre. Quand est-ce que ça s'est passé? À l'ouverture de la mer. Uvnei Israël Olchim Bayabasha Betochayam. Extraordinaire. Ça veut dire, j'ai trouvé une composition qui me permet d'être et à pied sec, c'est-à-dire dans la stabilité, comme j'aime l'être, mais tout en étant dans l'eau. Et si j'arrive à être Bayabasha Betochayam, j'ai une possibilité de voir des choses que je ne peux pas voir si je ne suis que dans l'un ou que dans l'autre. Donc moralité, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas créé dans l'eau, mais sur la terre, mais il nous dit que pour voir les éléments tels qu'ils sont réellement, il faut que tu touches à chaque fois un élément liquide. Donc à chaque fois que quelque chose t'empêche de voir ces éléments supérieurs, c'est que quelque chose manque chez toi d'humidité. Va faire Netilat Yadayim, rentre dans un mikvé, enlève ce qui t'étouffe, ce qui te rend imperméable à la lecture réelle de la vie. Donc quand tu fais Netilat Yadayim, tu enlèves l'impureté qui t'empêchait de voir certaines choses. Par exemple, quand on se lève le matin d'un grand sommeil, eh bien la première chose avant de se toucher quoi que ce soit, ni dans son corps ni ailleurs, Netilat Yadayim. Pourquoi? Sinon, tu commences ta journée dans un aveuglement évident. Alors que si tu nettoies ta vision des choses, apparemment ça se fait dans la main, mais en réalité c'est l'ensemble de ton être qui bénéficie de ce lavage, entre guillemets, de ce nettoyage, de cette ouverture. Et quand tu dois faire Netila, tu dois t'élever, car Netila ne veut pas dire se laver les mains, mais litol, litol c'est monter. Donc Netilat Yadayim, donc tu dois monter les mains au niveau de ta tête. C'est-à-dire que tu fais le lien entre le monde de l'action et le monde de la pensée, tout simplement. Vous voyez donc que ça passe par un élément liquide. D'ailleurs, à chaque fois que je passe d'un domaine à un autre, je dois emprunter un taxi qui s'appelle liquide. Quand la pensée de papa d'avoir un enfant commence à bouger, il doit emprunter un véhicule qui s'appelle le liquide pour faire passer ce message à la mère, et la mère va développer ce petit liquide dans un autre liquide. Et tout ce liquide va donner formation à un bébé qui va vivre en réalité toute sa fécondation et toute sa gestation dans un élément qui est un grand mikvé. Donc il va avoir un lien avec le monde environnant comme un poisson dans l'eau. Donc là-bas, on peut lui enseigner toute la Torah entière, comme dit la Gemara. Pourquoi? Parce qu'il peut la comprendre. Donc si vous étiez, vous aussi aujourd'hui, avec la sensation que vous êtes dans un grand mikvé permanent, vous auriez des connaissances de la Torah complètement différentes de ce que vous avez aujourd'hui. Mais quelqu'un qui ne veut pas comprendre ce degré-là, qui se limite à ce qu'il voit, c'est comme s'il se retirait à chaque fois de cet élément liquide, Maïm. Et donc en réalité, il se retire lui-même de la possibilité d'être perméable à la réception de ces valeurs qui nous dépassent. Il nous a fait comme ça. Roka. Roka haaretz ala maïm. Ça veut dire que roka rekia en hébreu veut dire développement, construction. Comme un bébé qui est en train de se construire. Ça s'appelle rokea, ça donne naissance au mot rakia. Et donc le rakia, qu'est-ce qu'il fait? C'est une membrane qui sépare ou qui relie, comme vous voulez, les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc en réalité, nous sommes en train de parler d'un rakia qui fait le lien entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc j'ai dessiné un aleph. Donc rokea ha'aret ala maim, c'est la même chose. Sham maim. D'accord? C'est-à-dire que le monde céleste, c'est là-bas où il y a de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il est caché. Donc quand je dis eau, quand je dis océan, quand je dis mer, je veux dire ciel. C'est-à-dire un monde caché. Et quand je veux dire réel, palpable, touchable à mon niveau, car c'est pas réellement le réel, eh bien je dis eret, c'est-à-dire ce que moi, je veux et je suis capable de recevoir, car la racine du mot eret, c'est la route, c'est courir. Donc qu'est-ce qui te fait courir? Pourquoi tu cours dans ta vie? Donc le mot eret, c'est un grand ratson, c'est ça la racine. Ce que tu veux vraiment. Donc il y a ce qu'il y a et il y a ce que tu veux. Et ce que tu veux n'est pas forcément lié à ce qu'il y a. Tu veux beaucoup moins que ce qu'il y a. Et quand tu limites tes désirs, eh bien on te donne selon l'ustensile que tu présentes. Mais si tes désirs étaient ouverts et grands aux mesures de l'infini, tu es censé recevoir l'infini. Moralité, la plus grande des teshuvahs que nous puissions faire, c'est d'agrandir nos vouloirs. Et ne pas rétrécir notre être comme c'était le cas pendant 2000 ans d'exil. Où on s'est complètement fermé à un domaine qui nous a en réalité fermé la vie à tout le reste.
Spirituel,
pas que spirituel et matériel. Il n'y a pas que ces deux mondes. Bien? Encore une fois, Kadosh Baruch Hu n'est pas spirituel. Faire attention. Kadosh Baruch Hu, c'est le tout. Il y a plein de domaines. Quand j'étudie la Torah, avec quel être, quelle partie de moi-même j'étudie? Est-ce que mon étude, ce n'est que cérébrale? Ça, c'était pendant 2000 ans d'exil. L'étude était cérébrale, était au niveau de la pensée. Donc tout le reste du corps ne participe pas. Quand on revient en Eretz Israël, et la Torah devient une Torah d'eau, tout à l'heure on va voir pourquoi, et non plus seulement une Torah terre, sèche, une Torah de vie, eh bien, tous les éléments de ton être doivent participer à ton étude. C'est-à-dire, tu dois développer pendant que tu étudies ton cerveau, ton imaginaire, tes sentiments, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tous les recoins de mon être participent à cette Torah, donc ça devient une Torah de vie, et non pas seulement une Torah d'esprit, que tu ne peux pas réaliser, manifester dans la réalité terrestre. Donc il faut faire très attention de sortir. Celui par exemple qui n'a pas, quiconque n'a pas de koach hamedame, c'est-à-dire la force imaginative, ne peut jamais prophétiser. Donc en dehors des Eretz Israël, on n'arrivait plus à prophétiser depuis la destruction du temple. On a coupé en réalité l'étude à un degré, le degré de l'esprit. Alors que quand on est au Beit HaMikdash, en Eretz Israël, vous voyez que l'esprit et le corps, et tous les éléments participent, sont dans l'unité parfaite. La preuve, au Beit HaMikdash, on s'occupe même du sang et des animaux et de la chair et de la viande, et en même temps, c'est tout du Kodesh HaKodashim. Comment est-ce que tu peux trouver un lieu qui sait, qui a la capacité de tout embrasser? Ça, c'est le Kodesh HaKodashim. La capacité à être dans le plus élevé des niveaux, tout en ayant la possibilité de toucher un bout de viande. Et de manger un beefsteak en comprenant les plus grands secrets de la Torah, comme c'était le cas chez les Kohanim qui revenaient chez eux après les Milouim, et ils savaient toute la Torah tout entière. Et la femme de leur poser la question, « Chérie, qu'est-ce que tu as fait ? Avec qui tu as étudié cette semaine ? J'ai mangé des bons bistecs. Mais j'ai mangé des kodashim. » Dans le seul lieu au monde qui peut faire l'amalgame, le lien entre la matière, la chair, et les mondes les plus élevés, profonds. Ça, c'est le Beth Amikdash. Quand on sort de cela, quand on est dans la destruction du temple, notre Torah devient spirituelle. Donc on n'a plus de jambes. Donc pour ceux qui la Torah est devenue spirituelle, esprit, eh bien, ce sont des gens qui ont perdu les pieds. C'est ce qu'on appelle les méraglimes, on l'a déjà parlé, qui n'ont pas la possibilité de concrétiser les choses, c'est tout au niveau des vapeurs de l'esprit. Comme on peut l'entendre aujourd'hui, on a peur de monter en Israël parce qu'on va perdre notre Torah. Magnifique. C'est vrai en plus. Ils ont peur de perdre cette Torah-là, oui. C'est vrai. Mais en réalité, ils ne perdraient, ils vont gagner une autre, mais ils ne savent pas. C'est ça le lien. Ayetsurim achaim ala yabasha, les êtres vivants sur la terre, sur le sec, nirim la kol, sont visibles. Ve'aremezu, et il y a ici une allusion, she'ain sholetet bahem, c'est-à-dire que l'œil arrive à définir. Je vois des contours, je vois quelque chose et je me dis, il n'y a que ça, il n'y a rien autour puisque rien ne se ressent. L'air environnant n'arrive pas à me remplir, je n'arrive pas à avoir la même sensation que dans l'eau. D'ailleurs, on a du mal à comprendre que l'air est une existence. Seulement quand tu étudies la physique et tu sais qu'un avion tient parce que l'air le tient, tu commences à te dire qu'en réalité l'air est un support. Et quand tu sens des secousses, tu as l'impression que tu es sur une route alors qu'il n'y a rien, tu es dans le vide. Il n'y a pas de vide. Mais ça, c'est une sensation que tu sens dans certains cas. Mais d'une manière générale, on n'arrive pas à sentir ce degré-là.
Dans l'eau, on n'a pas l'odorat.
C'est ça ?
Dans l'eau, on n'a pas l'odorat.
On n'a pas
l'odorat.
C'est fait. Alors justement, il faut savoir jongler les deux. C'est pour ça que j'ai dit ni l'un, ni l'autre seul. Les deux ensemble. C'est l'ouverture de la mer. C'est-à-dire l'ouverture de la mer est un idéal. Ce n'est pas un récit que la Torah vient me raconter qu'un jour, en sortant d'Égypte, on a traversé cet océan. C'est vrai qu'on est obligé de traverser, parce que je vous ai dit tout à l'heure d'une manière codifiée, qu'à chaque fois que tu passes d'un degré à un autre, tu dois emprunter l'élément liquide. Tout le temps. Quand la Torah doit descendre sur ce monde, ben, ce sont des valeurs d'en haut. Quand je dis d'en haut, c'est profond, c'est pas en haut. Okay? D'ailleurs, prier comme ça, c'est presque de la vodada. Le Shulchan Aruch nous dit, fais attention, quand tu pries, tes yeux doivent être en bas pour ne pas tomber dans cette erreur. Mais ton cœur doit être en haut. Alors qu'est-ce que ça veut dire en haut et en bas? Dans des valeurs cachées, dans des valeurs dévoilées. Mais tous ces mouvements-là, c'est pas évident. Faire attention. Tu ne peux pas jeter à Kadosh Baruch Hu dans le ciel, notre maître qui est aux cieux, notre père. Okay? Alors, Bashamaim ou Baharis, comme ça nous disons. Donc, Sheyesh Makom Lachshov. Donc à chaque fois que, par exemple, la Torah doit descendre dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Vous ne savez pas? Il a plu le jour du don de la Torah. Les Chachamim nous disent que le jour de la Torah était Yom Gishamim, Yom Gashum. Pourquoi? Parce que le mot Gashem veut dire matérialiser. Donc les Hid Gashem. Donc il faut que quelque chose se matérialise, donc ça tombe avec la pluie. D'ailleurs, quand Akadosh Baruch Hu voulait donner la première fois la Torah, c'était aussi de la pluie, 40 jours. Après ça s'est transformé en déluge. Mais c'était de la pluie. Vayehi HaGashem ala Ken Arbaim Yom. Parce que c'était une tentative de faire descendre des valeurs dans ce monde, tentative qui a échoué. Alors, pour l'instant, on rentre dans la Teva. Mais la Teva, elle est toujours sur l'eau. C'est-à-dire, tout est sur l'eau. Le seul élément qui est resté vivant dans ce monde était sur l'eau. Et ceux qui n'ont pas supporté cet élément liquide parce qu'ils voulaient être seulement dans le moi, eh bien c'est la même eau qui les a noyés. Autrement dit, l'homme et la femme meurent entre guillemets de leur propre problème. Tu es noyé par le problème qu'il n'a pas su gérer. C'est tout. Mais la Torah, c'est de l'eau. D'ailleurs, celui qui nous a attendu depuis Noah jusqu'à la, son apparition, Moshe Rabbeinu, il a attendu dans l'élément liquide. Moshe, qui mine Hamaim, Shitu, donc tu es obligé de sortir de l'eau, il l'attend depuis Noah, le pauvre. D'ailleurs, il est dans la Teva. Moshe, va Teva, non, pas la nature. Pas la nature, ça c'est Teva. Attention, moi je parle de Teva. Aucun rapport avec la nature. D'accord? Ou le mot en hébreu, Teva, rachet Tevot, c'est-à-dire c'est caché dans les mots. Donc les mots sont cachés dans les mots. Et les gens qui sont malades, ils ont eu du mal à dire. C'est la maladie. Donc quand tu sais exprimer, quand tu sais donner un diagnostic, eh bien en réalité tu es sorti, tu es rentré dans le mot. Donc tu as sauvé le mot. Ve'el les shemot, bene Israël. C'est les shemot que tu as sortis d'Égypte. D'accord ? Moralité, vous êtes en train de comprendre que ces éléments-là sont des éléments primordiaux. Donc à chaque fois que je touche un élément liquide, que je suis en proximité avec un élément liquide, eh bien, en réalité, je touche le ciel de mon être. Parce que dans ce ciel-là, il y a de l'eau. Shamaim. Là-bas, il y a de l'eau. Alors que tu dis ciel.
Mais les juifs, ils vont atteindre la perfection après la première des gens. Quel...
Alors, pourquoi ils n'ont pas... Il y a fait. Alors, on va voir. Alors, je vais te répondre pour ne pas te laisser en l'air. Si nous avons traversé ce double langage et que c'est un idéal, pourquoi en faute? Tout simplement parce que quand on sort de l'eau, on a oublié la sensation qu'on a vécue à l'intérieur. Moralité, quelque chose que tu n'as pas fait de ta propre initiative et qui t'a été donné entre guillemets cadeau, n'est pas encore à toi. Ça veut dire que tant que tu n'as pas acquis la chose, ce n'est pas la sienne, même si tu la vois, même si tu es à l'intérieur. Vous regardez un film au cinéma. Vous pleurez, vous rigolez pendant tout le film. Vous sortez, fini, c'est plus vous. Pourquoi? Parce que c'est pas vous. C'est quelque chose. Aujourd'hui, je sais que les gens s'identifient au film, donc ils deviennent des tzadikim au cinéma. Mais dans la vie après, Chas v'shalom, ça peut être un rachat. Parce qu'il a vécu par film interposé. Ses sentiments, sa sensibilité, c'est terrible. Mais c'est exactement la même chose. Donc tu dois acquérir les choses qui t'ont été données par le ciel. Alors on va continuer. Makom lachshov shekayemet metziut atzmit sheina mekabelet et hachiyuniyut shela min ha'avir ha'osef. Donc quel est le problème dans ceux qui vivent dehors, en dehors de l'eau? C'est de croire qu'ils sont une existence propre, qu'ils n'ont besoin de personne. Ce qu'on appelle le désir de recevoir qui engendre l'égoïsme, qui est en réalité le premier ennemi de l'homme. Donc plus tu es dans le liquide dans ta vie, plus tu vis. Moins tu es dans le liquide, moins tu vis. Zaevdel ben alma de itkasia, voici la différence entre le monde caché, donc l'élément liquide, les ben alma de itgalia, avec le monde dévoilé. Donc aujourd'hui tu peux être dans beaucoup de cerveaux, de sechel, cartésien, mais en réalité, tu n'es pas dans l'ensemble de ton être. Donc, tu ne vis pas un ensemble, tu vis des détails de cet être. Et ça, c'est une catastrophe. Be'olam aganous, donc le monde caché, vous comprenez que c'est l'élément liquide, c'est la mer. Ken yam. Dans cet élément, qu'est-ce qu'il y a au fond de... Qu'est-ce qu'on appelle yam en hébreu? Qu'est-ce que c'est yam? Non, c'est pas la mer. Je sais qu'en français, il y a un problème, parce que la mer, c'est une seule chose. Non.
Hein? Le double, non?
Hein?
Quelque chose de double.
Non. Yam, c'est le fond de la mer. Alors que les eaux, c'est les eaux. C'est maïm, c'est pas yam. Kamaim, mechassim, et tayam. Comme les eaux qui recouvrent la mer. Quand tu veux, les eaux qui recouvrent la mer. La mer, c'est quoi donc? C'est le fond de la mer. Donc en réalité, au fond de la mer, qu'est-ce que tu as? La terre. Donc tu dois être dans une mer qui a une terre. Et tu dois être Bayabasha Metokhayam ou Bayam Bayabasha. Un problème. Donc il faut arriver à vivre et à traverser ce degré-là quand, eh bien, quand tu lis la Torah, ce fameux passage. Donc les kabbalistes nous disent que fais attention, pendant la paracha de Béchalar, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Que tu vives toi-même, que tu traduises cette lecture en vécu. C'est-à-dire que pendant ce Shabbat-là, toi-même tu dois être celui qui est capable de marcher à pied sec dans ce qu'on appelle Maïm de cette mer.
Betochayam. Dans le fond.
Dans le fond. Parce que Yam, c'est un élément entier des deux. On appelle ça comme ça aujourd'hui. Mais là, je rentre dans l'Ulpan. Faites attention. D'accord? Il y a Maïm et il y a Yam. Donc, Veolam Ganouz, dans un monde caché, Aromez Alpnimiut Amarchavti, donc il fait référence à une pensée profonde, c'est ce qu'on appelle l'océan. Okay? Quand je dis, par exemple, qu'est-ce que tu as dans ton océan? C'est comme si je disais, qu'est-ce que tu as dans ton ciel? Shamay. C'est-à-dire, à quoi tu penses au niveau profond, le plus profond de toi-même? Qui es-tu? Donc, dans le mot Maïm, il y a mi. C'est-à-dire l'essence, l'identité. Yeshna Mudaout Matmedet, qu'est-ce que tu as dans ce monde-là? Si tu arrives à atteindre ce monde-là, qu'est-ce que tu as atteint en réalité? On s'en fiche de toucher d'un élément liquide ou de traverser une mer ou un truc comme ça. C'est pas ça. C'est que tu es en train de prendre conscience avec une Mudaout, une prise de conscience, Matmedet, sans arrêt, sans répit, sans coupure, à la Keshera Chiyuni Makodesh. Tu es en permanence relié au Kodesh. Comme ta Neshama d'ailleurs. Ta Neshama, c'est l'élément liquide de ton corps qui est l'élément solide. Donc l'oralité Yam et Yabasha, c'est la Neshama et le corps. Vous comprenez? Donc quand un homme marche, il marche avec les deux. Donc il est Bayabasha Betochayam. Ou Bayam Bayabasha. Là aussi il y a une différence, mais je ne veux pas toucher ça maintenant.
Quand même,
il est déconnecté quand la personne ne sait plus faire le lien, donc il meurt. Donc la Neshama le quitte, donc son monde profond, liquide, le quitte, il reste un homme sec. Un homme sec se décompose. D'accord? Donc le mind devient mauvais. Donc il y a ici quelque chose de très très intéressant et très profond qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est tout un code qu'on est en train d'étudier ici. Donc, la prise de conscience ne peut pas arrêter. Par exemple, combien de fois par jour vous priez? Encore, vous êtes tombé dans le piège. Tout le temps. Tout le temps. Pas les brachot, je parle pas de ça. Je parle de votre monde intérieur, la Neshama. Elle est reliée donc, Tfila, Tfila veut dire lien, avec l'infini à chaque instant. De temps en temps, vous vous ouvrez un livre, vous rentrez dans une synagogue, vous avez l'impression que vous liez, vous vous êtes relié. Mais en réalité, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De rejoindre le lien constant de la Neshama. Exactement. Donc, de temps en temps, je rentre moi dans une synagogue, alors que ma Neshama, elle prie 24 heures sur 24, jamais elle dort. D'ailleurs, comme mon corps dort, elle ne dort pas. Parce que le corps a besoin de ses besoins. Aujourd'hui, tel que nous sommes tombés, et comme la Torah s'est accompagnée dans tes chutes, eh bien elle va te donner la Torah du fauteur. Aujourd'hui, on est dans la Torah des fauteurs. C'est-à-dire la Torah a fait la faute. Vous comprenez? Donc la Torah s'est adaptée à nous. Mais en réalité, le fond de la Torah, le maïm de la Torah, lui, il est à un autre niveau. Il faut arriver à réatteindre le véritable degré de la Torah. Pour ceci, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pénétrer les eaux profondes de la Torah. Donc, Ba'olam Maneshamot, en Afsakot. Dans l'Olam des Neshamot, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause. Au Shinouim, il n'y a pas de changement, donc il n'y a pas de sommeil. Sheina, Shinoui, c'est la même chose. Bachavayat Achaim, dans l'aventure de la vie ou dans l'expression de la vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas, l'expérience vivante de la Neshama, ce n'est pas du tout celle du corps. Exactement. Ou Prinat Anetzach Sholet, donc qui domine là-bas? L'éternité. Bah, Olam Hazé. Alors, c'est où le Olam Abba? C'est ici. Seulement, quelle est la différence entre le Olam Abba donc et le Olam Hazé? C'est que un est caché et l'autre est dévoilé. Un est dedans. Tant que tu n'as pas pénétré ce monde, tant que tu n'as pas traversé cette membrane que tu ne vois pas, mais qui en réalité est ici, dans ta vie, dans ton étude, dans ton expression. Donc votre Olam Abba, ce n'est pas après la mort. C'est maintenant, c'est ici et maintenant. D'ailleurs, c'est au présent, Olam Haba, Olam Sheba. Alors pourquoi tu n'arrives pas à le toucher? Parce que tu es tout le temps à avoir peur de quitter ton monde sec pour rentrer dans ce monde liquide. Ceux qui ont attendu que la mer soit sèche pour entrer n'avaient pas le même degré que ceux qui sont rentrés quand la mer était encore mouillée. Et c'est pour ça. Et regardez le texte, c'est extraordinaire. Ceux qui ont attendu de passer à pied sec, ils se sont dit, moi je ne me mouille pas, c'est de là l'expression. Eh bien, le mot qui est protection autour, vous savez que la muraille d'eau était comme une muraille. Eh bien, regardez comment c'est marqué Choma là-bas, comme ça, Chema, sans vav. C'est-à-dire, c'est la colère de Dieu. T'es monté en Israël quand tout allait bien. Tu avais attendu que tout soit sec, tu ne voulais pas te mouiller. Alors que ceux qui sont rentrés dans l'eau, Bayam Bayabasha, parce qu'il y a les deux versets, Bayabasha Betochayam, ou bien Bayam Bayabasha, c'est-à-dire la différence c'est, tu es rentré pendant que c'était encore mouillé. Vehamaim Laem Choma, ceux-là ils ont une protection, une véritable muraille. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu protège ceux qui sont montés en Israël pendant qu'il faisait encore nuit. Pendant qu'il faisait encore peur. Pendant que ce n'était pas encore stable. Vous comprenez la différence? Tout est dit. Tout est dit. Et vous avez combien de formes de personnages il y avait? 4. Nous disait Chachamim. Ceux qui se sont dit, on se suicide. On rentre dans l'eau, on meurt. Il y a les Égyptiens derrière, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ceux qui se sont dit, on va se battre. Ceux qui se sont dit, on retourne en Égypte. Et ceux qui priaient. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit? D'Aber el Bnei Israël veïssaou, arrêtez, vous n'avez rien compris. Marchez, avancez. Arrêtez de croire que tu peux tout comprendre avant de marcher, sinon tu ne marcheras jamais. Tais-toi et nage.
Non, on dit
ça
à un enfant devant la mère, on lui a dit avant que...
C'est pas ça. Ça, c'est en réalité ce que tu dis, c'est vrai, mais sous une autre angle. Il y a une mitzvah d'enseigner à nos enfants à nager. Pourquoi? Justement à cause de ça. C'est-à-dire qu'aucun obstacle ne doit les arrêter. Quand je suis arrivé en Israël, quand je suis né ici, mais quand je suis arrivé là, il n'y a pas longtemps, il y a 22 ans, je suis revenu, j'avais... deux petits garçons, un de 1 an, un de 2 ans et demi. Et moi, je leur parle hébreu depuis qu'ils sont nés. Et je vais un petit peu voir, parce qu'on était une année d'Oulpan, et je vais regarder à travers la fenêtre comment la ganène était en train de s'en occuper. C'était la première fois au Gan. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur dit, allez maintenant, tout le monde fait la panique, on met toutes les chaises à l'envers, les machins, tout, ils ont fait un tas de 2 mètres de haut, qu'avec des chaises, des tables à l'envers, des machins, des trucs comme ça, elle a mis tous les enfants d'un côté. Elle leur a dit maintenant, elle est partie de l'autre côté, elle leur a dit maintenant, toi tu viens. Alors il y avait ceux qui étaient là comme ça, paralysés, et il y a ceux qui commençaient à grimper à l'intérieur de toute cette panique et traverser. Ça c'est une leçon de vie, ça c'est israélien. C'est que tu dois savoir que tu peux traverser la matière, que tu peux avancer, même si ça te paraît impossible, même si ça te paraît final, t'es mort. Yam, sauf. Voilà le mot. Il n'y a pas de Yam Sof, tu peux traverser. Baolam Azé, Efchar Litot ou Léargish Chayeinu Enam Kshurin Le Maïmad Aïlion. Tu peux tomber dans l'erreur que ce monde n'est pas relié à un élément supérieur, profond. Akshemagim le Troucha Kazot Chayesuri Memprinat Yesh Bikne Asma. C'est-à-dire tu peux considérer que tu es une existence à part entière. Tu n'as besoin de personne. Quelle est l'expression de ce « j'ai besoin de personne » La plus grande, Paro, « li yehori ve'ani asitini ». Paro, il dit, « moi, je suis moi, je me suis fait ». Vous avez déjà entendu des gens qui se disent « je me suis fait » Je me suis fait tout seul. Ouais. Magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici une perte. Une perte de quoi? Quand tu dis « je me suis fait », mis à part l'orgueil, ça c'est infantile, on a compris. Et c'est pas ça qui me gêne. C'est que tout simplement, tu perds le global. Tu es en train de prendre un élément dans l'univers et tu en as fait le tout. C'est faux. Donc tu es en train de perdre un recoin qui est l'esthétique, un autre recoin qui est la beauté, un autre recoin qui est la poésie, un autre recoin qui est machin. Et toi, tu es rentré dans un stanz, comme on dit, dans un... Une camisole, okay, comme vous voulez, étriquée avec un seul degré. T'as rien compris? Quand je vous dis Torah, ça doit comporter tout ce que je viens de dire. Il y a encore des milliards de choses. Si ta Torah n'est pas esthétique, ce n'est pas une Torah. Si ta Torah n'est pas belle, ce n'est pas encore une Torah. Si la vérité n'arrive pas à aboutir et à rentrer dans tous les degrés de la vie, s'il n'y a pas de hod, de splendeur. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu as l'impression que tu es religieux, tu es tranquille. Mais oui, tu es dans un petit coin. Tu t'es enfermé dans un petit degré. Tu t'es mis une coquille autour de toi et c'est fini. Jadavar mofia gam beyachas limuda Torah. Voilà. Et la chose réapparaît même au niveau de l'étude. Donc, il y a des gens qui étudient la Torah comme si c'était un océan. Donc, ils savent qu'il faut pénétrer. Et il en est qu'il étudie sèche. Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, dans les tikkunim du Zohar, nous dit que ceux qui ont transformé la Torah en sèche, c'est-à-dire le mot bereshit, au lieu de l'écrire comme ça, Bereshit, ils ont tout simplement pris les trois lettres Atar, c'est-à-dire un Atar comme Internet, c'est-à-dire un site, et il reste Yavesh. Le mot Bereshit, c'est Atar Yavesh. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans Tikkun Zohar, ceux qui étudient la Torah en la rendant sèche, à cause d'eux, la Géoula est retardée, il y a des meurtres dans le monde, la pauvreté dans le monde, la misquinerie dans le monde, tous les problèmes du monde viennent à cause de ça. Tikkun Zohar. Donc il faut abreuver ta Torah. Il faut l'humecter ta Torah. Loulav hayavesh pasoul. Si tu es un loulav sec, t'as rien compris. Les talmidei chachamim haoskim banigle shebatorah bilvad en kinui meyuchad kedel hagbira. Les gens qui étudient le sens premier de la Torah, il n'y a pas d'expression qui les définit, il n'y a pas un surnom. Le Umazot. Par contre, Mishoskim Gambesodot à Torah, ceux qui étudient aussi les secrets de la Torah, comment est-ce qu'ils s'appellent? Nunei Hayam, les Nunim de la mer, c'est-à-dire les poissons. C'est-à-dire un véritable Talmid Chacham, ça s'appelle un poisson. Dadim Shebayam. כיוון שלימודם עמוק וחודר אל המים העמוקים של התורה, מה שמגדיר אצלם את הרגשת השייכות המתמדת לקודש שהם עטופים בו כמו הדגים בים. Donc ils sont en permanence avec cette sensation d'être dans cet univers, dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont jamais seuls. Jamais je peux m'ennuyer. Ça n'existe pas ces trucs-là. Je suis tout le temps dans cet univers. Parce que je sens que l'océan est autour de moi. Je suis dans une grande eau, dans des grandes eaux. C'est-à-dire que je suis dans un autre ventre. Je suis effectivement sorti du ventre de ma maman où tout était liquide, mais je suis rentré dans un nouveau ventre, le ventre aux mesures de l'univers. Et là aussi, tout est comme ça, mais toi, tu n'arrives plus à comprendre, à savoir. Donc en réalité, on passe d'un ventre à un autre, c'est tout. Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav HaShalom, dans Tikkuné Zohar, au Tikkun 43, même guimel, Hayam Meshabeach Beyoter, il louait, plus que tous, Rav Hamnuna Saba. Qu'est-ce que c'est Rav Hamnuna Saba? C'était le nom du Rav. Mais en réalité, c'est la traduction. Rav Hamnuna Saba. Que ça veut dire Rav? Beaucoup. Hamnuna Saba. C'est-à-dire le grand poisson, le vieux poisson. Ça veut dire que vous avez les petits poissons dans l'eau et vous avez la grande baleine, celui qui approche comme ça. Hein? Le grand Léviathan. Et vous avez tous les petits poissons qui sont au-dessus de lui pour des parasites en train de vivre de sa Torah. Mais lui est le grand poisson, donc en réalité c'était le maître des poissons, le grand, grand, grand poisson. D'ailleurs aujourd'hui c'est resté, quand tu veux attraper quelqu'un d'important, tu dis il a attrapé un gros poisson. Eh bien Rav Hamnuna Saba, de temps en temps il apparaît dans le Zohar. C'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai donne un cours, Rav Hamnuna Saba n'est plus de ce monde. Et il vient. Ou bien il envoie son neveu. Okay. Un petit qui vient, c'est une neshama qui descend, elle rentre dans le cours de Rabbi Shimon Bar Yochai et elle enseigne des degrés, devant tous les talmidim. Okay. C'est-à-dire c'est une neshama qui vient donner des nouveautés. Et Rabbi Shimon Bar Yochai parle avec lui, il répond, on lui dit, okay, c'est une étude. Donc, ce sont des neshamot qui viennent d'où? Du fond de l'océan. Elles sont même plus limitées dans leur corps, c'est des neshamot maintenant. Alors imaginez-vous le dialogue entre Rabbi Shimon Bar Yochai et ce grand poisson, Rav Hamnuna Saba. Magnifique. Kevan Sheugilem et Adaga Gadol Shebamaim Amukim. Donc qui c'est ce Rav Hamnuna Saba, le grand-père des poissons Saba. Le vieux poisson, il a déjà 3000 ans. Il était donc spécialiste, ce Rav Hamnuna Saba, dans les tsfunot. Qu'est-ce que c'est tsfunot? Les codes, sofen, en hébreu.
Explication avec le bal téphone?
Non, non. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose.
C'était juste avant
l'entrée. Nachon. Mais ça c'est en réalité l'antithèse. C'est l'antithèse de ça. D'accord? C'est-à-dire c'est kachour dans le sens inverse. C'est-à-dire, si tu tombes dans ce degré-là, de Avodah Zarah, tu n'as pas l'autre. Donc, il y a une forme de Avodah Zarah, c'est très important que tu poses cette question, une forme de Avodah Zarah qui va te dire en réalité, j'étudie la Torah, mais cette étude-là, non. Donc, tu es en train de tomber dans l'erreur.
On ne dit pas que Yosef avait caché des...
Qu'est-ce? C'est ça tout le secret. C'est-à-dire, Yosef, c'est celui qui est capable de rentrer où?
Dans la mer.
Toujours dans la mer. D'ailleurs, il a demandé d'être mis entre guillemets, pas enterré, mais emmerré. J'invente des mots, hein, c'est pas grave. C'est-à-dire, je suis souple, je suis pas français, donc je peux me permettre. Okay? Mais en réalité, Yosef, c'est quel élément dans le corps humain? Dans le corps humain, le Yesod, la Brit Mila, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui fait le lien, elle rentre où cette Brit Mila? Encore une fois, dans un élément liquide, dans le ventre. Vous comprenez, c'est des secrets. Yosef HaTzadik, c'est un secret, c'est extraordinaire ce qui se passe là-dedans. Parashat Beshalach Betaer et Bekiat Hayam, Bifnei Am Israël. Maintenant vous comprenez ce qu'on vient de lire pendant ce Shabbat. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu nous donne dans cette parashat de Beshalach, avec les codes les plus grands qui puissent exister, le nom secret des 72 noms est codé dans cette paracha, dans trois versets. Je ne vais pas rentrer maintenant parce que c'est encore un cours à part entière. Et il te dit, voilà, je te donne la possibilité, toi aussi, de traverser en réalité cet océan. Pirouche, Yeshbe paracha zo hazmana. Dans cette paracha, nous invite, l'ardor el omet alimoud, d'approfondir notre étude, atkede argasha shemamshichim lalechet ala yabasha, kemosha pasuk omer vayavou bayabasha betochayam. Donc tu peux marcher en réalité à pied sec dans l'eau. La foch et torat asod le limoud yatsiv, Revadaï. C'est-à-dire transformer la Torah des secrets en Torah stable. Aussi clair qu'un texte de Mishnah ou de Gemara que tu vois. Ça, c'est l'idéal de l'étude. C'est-à-dire que tu vois la Torah, tu vois la Mishnah, tu vois la Gemara, tu vois le Zohar, tout est clair devant toi. C'est comme ça qu'on doit être. Chez la question, d'accord, alors on est rentré dans l'eau. Maintenant, qu'est-ce que je suis censé voir? Tchouva. Mashe Megalim Chazal, ce que les sages viennent nous enseigner. Ra'ata Shifra Alayam, Mashe Lora Yechezkel Anavi. La plus petite des servantes, c'est-à-dire la femme la plus simple, on va dire, a vu ce que le prophète Ézéchiel n'a pas vu. Autrement dit, qu'est-ce que je peux voir si je traverse la mer de cette manière? Qu'est-ce que je peux voir? Quoi? Quel secret? C'est quoi? Tu vas voir des secrets? Tu vas voir un Zohar avec un livre ouvert? Qu'est-ce que tu vas voir? C'est celle qui est la plus proche. Ton identité, ta Sgoula, ce dont tu es capable dans ce monde réellement. Sgoula vient du mot Metsugal. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a montré à Israël quand ils ont traversé? Leur essence, ce pourquoi ils ont été créés, quel est leur rôle dans ce monde. C'est ça qu'on a vu à travers l'eau. Moralité, une fois que j'ai contacté avec moi-même, avec mon identité la plus vraie, la plus essentielle, qu'est-ce que je fais? Je chante. Ah, Yashir Moshe, je ne peux pas faire autrement. C'est naturel le chant. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, maintenant tu chantes.
On ne chante pas parce que les autres sont tombés dans l'eau.
Il a fait. On chante parce que c'est une expression naturelle et spontanée du contact avec mon identité la plus profonde. C'est la même chose. C'est un degré de chant. Il y a plusieurs degrés de chant. Az Yashir Moshe. Autrement dit, ce chant-là, qu'ils ont dit au moment de la traversée, est-ce qu'ils ont fait un arrêt? Moshe a distribué des feuilles, comme je vous les donnais. Voilà. Alors écoutez, mesdames et messieurs, hier soir, avant de sortir d'Égypte, j'ai fait des photocopies chez le pharaon. Ken, avec un accent français. Ken. D'où est-ce qu'ils connaissent les mots? D'où est-ce qu'ils connaissent les mots? Tout le monde chante en même temps. Quoi, on leur a distribué, on a dit quelque chose, et l'air, d'où tu le connais? C'est-à-dire, ils sont arrivés à quoi? À l'unité profonde, là-bas, il n'y a plus de différence. Tous les sens sont au même degré. Donc tu vois ce que tu entends ce que tu vois, tu parles avec l'oreille, et tu chantes avec l'œil. C'est extraordinaire. Donc moralité, quand on arrive à ce degré-là dans notre vie, est-ce que j'ai besoin d'arrêter et Moshe de leur dire, bon maintenant on fait une bracha, vous répondez Amen. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu ligmor et ha'alel. Parce que c'est le halel. Est-ce qu'ils ont fait une bracha? Non. Quand est-ce qu'on fait une bracha? Quand on est obligé de s'efforcer à... Mais quand tu chantes réellement dans ta vie, quand tu as quelque chose qui t'arrive, tu fais une bracha? Non! Vous comprenez combien on tombe? Ça veut dire, quand est-ce que je peux, la seule fois dans l'année, faire le halel sans bracha? Tu fais la bracha. Dans le soir du Seder de Pessah, vous voulez aller à l'aile et vous ne faites pas la bracha. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la condition de ceux qui étaient là-bas pendant 10 ans traversés. Donc c'est un chant spontané. Il a fait. Tu as raison. C'est ça le secret de la vie. C'est d'arriver à partir du moment où tu dis pourquoi, c'est que tu en as marre. C'est bien. Si j'ai réussi à réveiller ça, c'est super. Ça, c'est encore autre chose. Il y a 4 degrés de chant. Il y a Shir Fashut, Shir Kafoul, Shir Meshulash et Shir Merouba. C'est encore une leçon à part. Ken? C'est encore une... Ça, c'est le nouveau Kochav Nolad. So. Vous comprenez maintenant qu'en réalité, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là-bas. Donc ils ont rencontré leur Ségoula. Et donc ils étaient en réalité, nous disent les sages dans la Gemara, laissez maintenant le texte, comme un fœtus dans le ventre de sa mère. À tel point que la Gemara dans le traité de Brachot nous dit à la page 50, « Afilu ubbarin shebe'emme'eyman amrushira » Même les fœtus dans le ventre de la mère, ils ont chanté. Parce que normalement, pour chanter, il faut que tu sois au minimum né. Après, éduqué. Non. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas ni d'éducation, ni d'essence, ni rien. C'est de l'essence, l'apostrophe. Comprenez? Donc, dans l'essence, le fœtus, qui n'est même pas encore formé, il peut chanter parce qu'il est connecté complètement avec celui qui est déjà à 90 ans dans ce monde. Tous les deux, ils peuvent chanter. Magnifique, magnifique. Ça veut dire que c'est un chant qui est au-delà du chinour, même de l'éducation. Pas besoin d'éducation pour ce chant-là. C'est le chant de l'être, c'est le chant de la neshama, le véritable chant. Après, ça a donné naissance à plein de bêtises, qu'il y a des sirènes et des machins dans l'eau. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard que ça vient de là-bas. Parce qu'on entend encore l'écho de ce chant des enfants d'Israël. Mais si j'arrive à traverser moi, la même chose puisque je l'ai lu hier. Ou alors je considère que la lecture c'est du bidon. Ben oui, sinon je reste chez moi à la maison, je dors. Shabbat, je suis fatigué, il vaut mieux dormir. Mais si tu sais que pendant que le texte est en train, le narratif, il est en train de traverser, tu sens toi-même qu'il est en train de traverser. Et tu vois ce qu'ils ont vu. T'es un autre degré, mon vieux. T'es un autre degré. Pour ça, il faut de l'imagination. Ça veut dire que ton étude doit être complètement de tout ton être. Et donc, tu as un accès à la prophétie. Et tu peux recevoir des chidushim dans la Torah.
Donc, la galette, il faut vraiment qu'elle soit...
Bechol dor vador chayav adam lirot et Ke'iluhu. Sinon, ça sert à rien. On n'est pas en train de mettre des pins aujourd'hui. C'est Pessah. Il y a pendant 8 jours que tu gardes un pin. Ça n'existe même plus, les pins. Mais bon. Qu'est-ce? C'est pas ça. C'est de vivre la chose. Alors j'ai commencé le cours et j'ai déjà fait un tollé. Parce que je vous ai dit, hier soir, j'ai fêté la Mimouna. Ah bon, comment tu dis je vous laissais pendant une minute dire les choses. Mais en réalité, hier, c'était Shvi'i Shel Pessah. Donc moi, c'est Shvi'i Shel Pessah, c'est la Mimouna. Donc hier, on a fait des mouflettes.
Et avant-hier, vous avez mangé la galette ?
Bien sûr, parce que Shabbat, on doit manger des matzot, d'après la Kabbalah. C'est-à-dire que tous les Shabbats, on doit manger de la matzah qu'on a fait pendant la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que vous devez acheter au moins 1 kilo ou 2 kilos en plus, que vous cassez en petits morceaux, chaque Shabbat, vous goûtez un petit morceau de la matzah de Pessah. C'est-à-dire pendant ton repas, tu as fait un motzi lecheminar et tu manges ta salade de piment et tout ce que tu as envie de manger, tes aubergines et tes... Et tu manges un bout de matzah. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a ici une prise de conscience de vécu, ce qu'on appelle mudaout et yeda. Tant que tu es dans une information toranique, c'est pas ça la Torah, je suis désolé. Il faut arrêter, quoi. Ça y est, quoi. On est à la fin des temps, c'est-à-dire à l'après-temps. Même pas à la fin des temps, c'est encore des notions. On est maintenant, il faut arriver à donner à la génération qui vit maintenant un kavod. Je ne peux pas vous négliger à vous donner une Torah qui est basse. Je suis obligé de vous donner une Torah parce que je vous respecte. Parce que vous êtes capable, parce que le peuple est capable. La preuve, on arrive à trouver quelques petits degrés. Baruch HaShem, dans notre petit cours à nous. Pourquoi pas ? Toda Rabba.
Merci beaucoup. Vraiment, c'est un peu une...
Non, c'est pas du cuir, c'est un prénom de l'art, pas du cuir.
Il y a rien qui est encore
Non, 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 il y a la neshama, Et dans la Neshama, c'est exactement, Non. Ça, c'est parce que le Rambam, quand il parle dans un autre langage. Ça, je parle au niveau de la Kabbalah.
Ah,
ben oui, ça m'arrête plus. Moi, j'ai dit ça.